au livre, le podcast quand Quentin Scouvard rencontre Violaine Schwartz.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone, tulipes, je te...
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux dans cette période de confinement de pouvoir continuer de recevoir des auteurs à la librairie. Alors c'est sous forme d'interview radio. J'espère que cette initiative trouvera un écho favorable parmi vous. Nous recevons ce soir Violaine Schwartz pour son dernier roman, Une forêt dans la tête, paru chez POL. Bonsoir Violaine.
Bonsoir.
C'est pas la peine d'être timide, tout va bien se passer. Violaine Schwartz, vous êtes comédienne et auteure par ailleurs de La tête en arrière, Le vent dans la bouche, Papier et d'autres textes, tous chez POL. Je vais vous faire une petite présentation très rapide d'une forêt dans la tête. Il s'agit d'un roman où la narratrice a subi un AVC, se remet de cet accident, suit au départ à Paris une série d'examens et puis de pratiques de rééducation à l'hôpital de la Salpêtrière. Et puis, dans la deuxième partie, elle file dans les Pyrénées, pour une raison qu'on va évoquer, évidemment, dans une maison de famille, qui est un peu la maison du bonheur de l'été, mais qu'elle a choisi, dans ces circonstances-là, d'aller habiter toute seule, hors saison, d'une certaine manière. Et là, on bascule dans tout à fait autre chose, puisque, en plus de sa problématique du rapport au langage déficient qu'il faut raccommoder petit à petit, elle redécouvre cette maison sous un autre jour. Et surtout, elle fait la rencontre plus approfondie des autochtones qui vivent là autour, et qui sont les Yanouts. Alors les Yanouts, on va en parler, et notamment une certaine Frida, personnage extraordinaire, qui sera une vraie rencontre au sens plein du terme, une rencontre littéraire également, qui va ouvrir, à mon avis, le roman sur tout à fait une autre dimension poétique, philosophique et politique également. Bon, on ne dira rien de la fin de ce roman, qui je trouvais absolument exaltant, et dans l'écriture et dans la forme. Voilà, que j'invite tout le monde à lire, évidemment. Violaine Schwartz, donc voilà, un résumé très très succinct, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je sais que par ailleurs, vous-même, vous avez subi un accident cérébral. Alors, je précise juste qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais d'une écriture à partir de cette expérience traumatique, fondamentale, évidemment. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est quel était l'élément déclencheur qui vous a fait passer de cette expérience personnelle, difficile, douloureuse, à l'écriture. C'est-à-dire, pourquoi finalement vous avez éprouvé le besoin, ou qu'est-ce qui vous a, quel est le premier moteur qui vous a poussé à dire que cette histoire, il fallait la raconter et la raconter comme ça.
Le premier moteur, bon déjà en effet, j'ai fait des séances de rééducation pendant 2 ans, et assez vite j'ai gardé les photocopies de ces exercices. Ça c'était des emports de damnement, parce que je me disais il y avait quelque chose à faire à partir de là. D'ailleurs j'en ai fait un spectacle avant d'écrire ce livre, j'en ai fait un spectacle avec une chorégraphe qui s'appelle Cécile Boyer, c'était un spectacle. En fait, on faisait ces exercices en direct. C'est-à-dire que je changeais à chaque fois, j'écrivais des phrases un peu sur le modèle de ces emports d'allemand, qui sont un peu des phrases. Enfin, le principe de ces exercices, c'est on dit une phrase, par exemple sur la table, le livre est posé de travers, et vous devez retenir de travers. Et j'en dis une deuxième, voilà, le personnage a une veste rouge, et vous devez devenir rouge. Donc ça fait deux travers, rouge, etc., etc., etc. Et en général, on retient à peu près sur 10-12 phrases. Et donc, dans le spectacle que j'avais fait avec Cécile Loyer, on faisait l'exercice en direct, et c'était performatif, en fait, parce que du coup, le public le faisait dans sa tête, ou des fois, il nous soufflait, parce qu'évidemment, c'est un peu plus dur que quand on est dans le public. Et voilà, et du coup... c'est une des raisons. Bah, c'est pas la seule. C'est vrai aussi que quand on vit quelque chose comme ça, c'est très, comment dire, c'est très bousculant intérieurement. Et ça valait le coup d'en parler. Après, il y a aussi que, un peu sur le modèle... Alors, en fait, j'ai écrit ce livre après un livre qui s'appelle « Papier », où j'ai recueilli la parole de demandeurs d'asile. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit à partir d'enregistrements, de paroles. Et je m'étais donné comme contrainte de n'écrire que à partir de ces mots enregistrés, de ne pas rajouter des mots à moi. Après, c'est un travail de montage, de... Bon, voilà. Et l'année d'après, il se trouve que je connais quelqu'un qui ressemble un peu à Frida. Et j'ai eu envie de l'interroger, enfin de savoir un peu qui était cette femme. Et voilà, parce que je la connais un peu sans la connaître. Et il se trouve que ça lui a carrément plu. En fait, j'ai 6 heures d'enregistrement de sa vie, où elle raconte sa vie. Et du coup, j'ai fait le même travail que pour papier, donc j'ai redonné ses paroles, j'ai choisi, j'ai mis devant, derrière, parce que je trouvais plus important. Voilà, j'ai essayé d'éclairer, orchestrer ça sur la page. J'ai travaillé avec elle aussi, je lui ai montré. Voilà, et donc j'avais ce très long témoignage qui racontait la vie de Frida, qui faisait à peu près 30 pages. Et après, je me suis dit, tiens, mais ça serait intéressant de le mettre en parallèle avec un personnage radicalement différent, qui serait un peu inspiré de ce que j'ai vécu, mais en effet, qui n'est pas non plus moi, enfin, qui est... Bref. Et donc, une citadine, et elle vit à la campagne dans les Pyrénées orientales. Quelqu'un qui est intégré, qui a un métier, qui a des enfants, voilà, et elle qui est quand même en rupture depuis fort longtemps, en rupture de banc. Et voilà, et j'ai imaginé en effet de mettre ces deux histoires en miroir.
Je posais la question également parce que dans le très bon article de Xavier Houssin paru dans Le Monde des livres de la semaine dernière, il a soulevé une chose que je n'avais pas du tout notée, mais il y a effectivement un fil rouge aussi que lui a noté dans les différents romans que vous avez fait paraître précédemment. Je pense notamment effectivement à La tête en arrière, mais aussi au magnifique roman que vous aviez fait sur La chanteuse frêle, Le vent dans la bouche, où effectivement il y avait déjà l'exploration de la psyché d'une femme... une femme sous emprise, mais au sens, je pense vraiment, pour moi, voilà, différents personnages féminins que vous traitez dans ces trois romans-là, en tout cas, ça fait penser à Gina Rowlands, dans le film de Cassavetes. Donc, du part, ma première question, ça serait, dans cette exploration de cette psyché de femme déstabilisée, pour le dire comme ça, voilà, qu'est-ce que vous y cherchez, qu'est-ce que vous y trouvez? Premier point de la question. Et deuxième partie de la question, sur la forme, on va le voir, c'est un livre qui à la fois a des aspects dramatiques, mais qui est très drôle, très léger par moments. Il y a quelque chose qui me renvoie aussi à votre travail de comédienne que vous avez fait précédemment, notamment autour d'auteurs comme Gerasim Luka ou Francis Ponge, et donc un rapport à la mise en forme de la langue qui peut parler de choses justement un peu dramatiques, mais en prenant une forme, j'allais dire presque... un travail formel, en tout cas, qui est presque à la surface des choses. Je pense à Francis Ponge, par exemple, c'est-à-dire comment, finalement, le travail de la langue elle-même, sans intentionnalité psychologique, etc., au fond, touche le cœur des gens par le cœur des choses. Alors voilà, c'est deux questions. D'une part, voilà, vos portraits de femmes sous influence, le titre m'échappe de Cassavetes, je crois que c'est une femme sous influence, il me semble, hein, avec Gina Rowlands, extraordinaire, d'une part, et puis d'autre part, ce rapport à la forme d'écriture, un peu formaliste, pour le dire comme ça, je pense à Gerasim Luka et Francis Ponge que vous avez joué sur scène.
Oui, alors c'est vrai qu'en vous écoutant, c'est vrai que mes trois romans, en fait, c'est en effet donc, trois portraits femmes, quoique dans Le vent dans la bouche, c'est une femme qui se prend pour la chanteuse Fréhel, mais au milieu du livre, c'est peut-être un homme qui se prend pour une femme, qui se prend pour Fréhel. Bon, enfin, ou peut-être c'est un fantasme de plus, mais bon. Mais c'est vrai que La tête en arrière, c'est le portrait d'une cantatrice au chômage, donc quelqu'un qui est un peu hors cadre et qui en souffre. Et qui voilà. Une forêt dans la tête, c'est en effet quelqu'un qui est en disponibilité et qui parce qu'elle est trop fragile pour travailler, elle est trop abîmée par cet accident. Et en fait, c'est vrai que tout le livre En fait, elle est en disponibilité, mais elle n'est pas tellement en disponibilité. Enfin, j'essaye tout le livre, c'est le chemin pour se rendre disponible, quoi, pour arriver à l'être, parce qu'elle est un peu trop encombrée par elle-même. Et c'est vrai que le vent dans la bouche, c'est quelqu'un donc, c'est sur la vie de Fréhel, mais c'est quelqu'un qui, c'est une espèce de biographie à travers quelqu'un qui se penche au Fréhel. Et c'est vrai que c'est assez marqué. Je l'ai un peu écrit en pensant à ces chansons réalistes, marquées par l'alcool et par l'excès. Et donc c'est vrai que c'est assez marqué par l'alcool. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une nuit d'insomnie. Ouais, pourquoi je m'intéresse à ça?
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
quand elle a en effet la... Ben c'est vrai que moi j'ai pas fait d'études littéraires classiques. Par contre, c'est vrai que ma formation, c'est le théâtre. Et donc, j'ai été très marquée, en effet, par des auteurs comme Gerasim Luca, ou Olivier Cadio, ou Christian Prigent, ou Tarkos... des gens qui, comment dire, la patte mot du langage, qui malaxent la langue. Et c'est vrai aussi que quand j'écris, j'entends, en fait, peut-être c'est assez oral. Je suis venue en fait à l'écriture aussi. Au début, j'écris des pièces pour la radio. Et puis après, bon, j'ai écrit un premier roman qui était donc La tête en arrière, mais dans ma tête, c'était pour la radio. Et c'est vrai que quand j'écris, c'est souvent pour des voix. Enfin, j'entends. Voilà.
Alors justement, ça tombe bien. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est vos romans, et celui-là en particulier, on se surprend, une fois qu'on l'a lu, à relire des pages à haute voix pour soi-même, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de qui travaille l'oralité. Je vous propose précisément de nous faire entendre un premier extrait.
Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Deux fois par semaine, elle t'adresse une phrase, impassible, derrière son chignon bien tiré. Elle peut dire « la bûche glacée est recouverte de chocolat » ou « l'enfant joyeux arrive avec sa trottinette ». Elle peut dire n'importe quelle phrase, du moment qu'elle est neuve pour toi. Sa complexité dépendant de ta progression, de ta fatigue, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Elle peut dire « la jungle hostile pullule de boa. » Facile. Mais elle peut dire aussi, dans l'âtre de la cheminée, les bûches flambent joyeusement, avant de retomber en cendres, calcinées. La règle du jeu est la suivante. Tu dois d'abord répéter toute la phrase à voix haute, comme le ferait un perroquet, puis redire le dernier mot dans la foulée, pour bien l'accrocher dans ta mémoire immédiate. Arrive ensuite une nouvelle phrase, avec un nouveau dernier mot à conserver à la suite du premier, et rebelote, jusqu'au trou noir, jusqu'au blanc, jusqu'au point d'interrogation. Pour fixer cette liste aléatoire de substantifs dans ta mémoire, tu ruses. Tu élabores à toute vitesse des nœuds de sens, des embryons d'histoire. Chocolat, trottinette, facile. Égal, 4 heures le goûter, on fait la course, Prams 2, c'est celui qui dit qui est, mais attends-moi, aïe, même pas mal. Le chocolat a fondu, mais c'est bon quand même. Mais... boa calciné égale quoi? Je vous écoute. Pardon? C'était quoi déjà la première phrase d'aujourd'hui? Excusez-moi, je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas très concentré aujourd'hui. J'ai très mal dormi, c'est pour ça. Je vous la répète. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. La femme en blouse blanche dit toutes les phrases sur le même ton, c'est-à-dire sans mettre le ton. Le contraire de ce qu'on vous demandait de faire à l'école. Lisez en mettant le ton. Sa voix est comme un vide. Elle est plate jusqu'au bout du ciel. Elle n'offre aucune aide d'aucune sorte. C'est à vous. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Pain. Oui. Ce fier pilote suisse parcourt le monde. Comme il se doit, tu dis ce fier pilote suisse parcourt le monde. Monde. Puis tu colles ce monde au mot d'avant. Pain, monde. Bien. Les crevettes roses garnissent les avocats. Les crevettes roses garnissent les avocats. Avocats, puis pain, monde, avocat. On continue. Cette forêt giboyeuse ravit le chasseur. Donc ça fait pain, monde, avocat, chasseur. Et tu penses, entre parenthèses, en même temps que tu parles, le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur. Non, vous devez d'abord dire toute la phrase en entier, s'il vous plaît. Et quelle sévérité. Tu ris intérieurement. Oui, pardon. Cette forêt ravit le chasseur. Non. Ce n'est pas la bonne phrase? Pas tout à fait. Comment était cette forêt? Profonde? Non. Épaisse? Touffue? Non. Giboyeuse. Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais ça ne se voit pas, c'est une ignorance invisible. Donc ça fait cette forêt giboyeuse, ravie de chasseur, chasseur, puis pas un monde avocat chasseur. Encore, encore, le plaisir d'y arriver. Ma tante préférée à bord des tortues. Ma tante préférée à bord des tortues, tortue, puis pas un monde avocat chasseur, tortue. Du chasseur à la tortue, tout simplement. Parfait. Malgré la nuit désastreuse, les yeux au fond des paupières, tu ne t'en sors pas trop mal. Quand tu as bien dormi, tu tiens sur 12 phrases. Les mots rebondissent dans le silence de ta concentration, comme des ricochets dans l'eau devenue solide, couleur éteinte. Hop, hop, hop. Pain, monde, avocat, chasseur, tortue, comptoir, carotte, nuage, mésange, salopette, chandail. Non, je recommence. Pain, monde, avocat, chasseur, tortue, comptoir, carotte, nuage, store, mésange, salopette, chandail. Le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur, à la tortue. Installé sur le comptoir, pas du tout, c'est la carotte, dit le nuage, à travers le store, hein, une mésange en salopette, chandail. Bon, on se débrouille comme on peut.
Merci. Alors, voilà, ça installe voilà, une forme de rapport au langage qui est à la fois drôle et dramatique. Évidemment, il y a toutes ces séances dont on vient d'entendre une partie où la narratrice débat avec elle-même et ruse avec elle-même. Il y a quelque chose de plus fondamental, on n'a pas dit que cette narratrice est professeur. Et qu'évidemment, le langage, c'est son outil de travail, puisqu'elle s'adresse à un public, que sont ses élèves. Il y a quelques scènes assez cocasses, justement, où, suite à son accident, bah, elle prend un mot pour un autre, donc aboutissant toutes sortes de drôleries et de situations un peu tordues. Il y a un basculement dans ce roman qui fait que cette femme souffre évidemment de cette perte du rapport à la langue, qui est, comme je l'ai dit, son outil de travail. Et elle prend une décision tout à fait curieuse, un peu contradictoire, puisqu'elle décide, vous allez dire pourquoi et comment, d'aller dans cette fameuse maison des Pyrénées, Pyrénées orientales, maison un peu du bonheur, la maison des vacances, la maison des souvenirs heureux en famille. Or, elle y va hors saison, seule, comme je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire sans interlocuteur. Pour quelqu'un qui veut soigner son rapport au langage, c'est un peu compliqué, puisque la solitude implique d'une manière un langage pour soi-même et à soi-même, enfermé en soi-même. Alors, on va voir qu'il ne va pas en être ainsi, puisque, grâce à plusieurs rencontres, mais une rencontre, dont on va parler dans un instant. Mais déjà, sur cette bascule du roman, sur le départ dans les Pyrénées, j'aimerais vous entendre dire quelque chose sur le cheminement de ce personnage, la narratrice, sur cette décision.
C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en fait, elle décide de... Bon, elle est fatiguée d'elle-même, elle est fatiguée de tourner en rond, elle ne supporte plus la violence de la ville. Ses exercices de reconstruction, elle en vient un peu à bout, enfin, c'est pas qu'elle en vient à bout, mais ça va... Bon. Et tout à coup, c'est vrai que la nuit, elle a aussi des problèmes de sommeil liés à son accident également. Et la nuit, elle, un des exercices, parce qu'en fait, cette femme fait sans arrêt des exercices de tout. C'est-à-dire qu'elle fait des exercices de mémoire, mais elle fait aussi des exercices de reconstitution de paysage. Et donc la nuit, quand elle n'arrive pas à dormir, elle se réfugie en pensée dans cet endroit, qui est l'endroit d'avant, en fait, qui est l'endroit... Parce qu'elle n'y est pas retournée depuis qu'elle a eu cet accident. Et donc, c'est l'endroit un peu magique. C'est l'endroit ardoise magique. Quoi. Et ici, ça n'existe pas parce que personne ne sait que j'ai eu ça là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'elle y va aussi, histoire de retrouver ses baskets posées au même endroit qui l'attendent. Et elle se dit les choses, si c'est pas nommé, ça n'a pas lieu. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Et elle ne le dira pas. Elle décide qu'elle ne dira rien à personne. Et peut-être que personne ne devinera qu'elle a vécu ça. Et c'est vrai que cet endroit, c'est un petit village où finalement les choses sont un peu comme éternelles, bien que non. Mais enfin, on a l'impression que rien ne change jamais.
Il faut préciser que ce n'est pas exactement un petit village, parce que vous décrivez l'arrivée dans cette maison. C'est une maison qui dépend d'un petit village, mais qui nécessite une piste à travers. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu conte. L'arrivée à la maison, elle est extraordinaire, hein, pour ceux qui la liront. Arriver à cette maison, ce n'est pas rien. C'est un tout petit village qui est à l'extrême sud de la France, paumé. Donc le village est déjà paumé, mais pour la maison, elle n'est pas dans le village. C'est une maison au bout d'un chemin, dans la forêt. Voilà, donc ce côté maison de conte, hein, la maison dans la forêt, joue à plein dans votre récit.
Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'elle décide d'y aller. Après, c'est un énorme pari, c'est un énorme défi, en fait, parce que c'est une grande maison, elle la connaît, ça fait 25 ans qu'elle y va, mais elle n'a jamais été toute seule là-bas. Or, c'est une maison gigantesque, avec des tonnes de draps et sans doute, et puis la jungle est très, comme la jungle, la nature est très puissante. Donc en effet, ils ne sont pas allés peut-être depuis un an, et donc sans doute les pruneliers, les ronces et les orties ont dû pousser à fond. Mais elle ne pense pas trop à ça, en fait. Elle se dit, j'y vais. Et c'est aussi l'effet vaccin. Elle se dit, si j'arrive à supporter une semaine toute seule là-bas, j'aurai plus peur de rien, jamais. Mais aussi, elle fuit, elle ne peut plus supporter la violence de Paris.
Alors il faut dire qu'il y a une deuxième caractéristique de ce personnage, donc effectivement la caractéristique liée à l'accident, qui suscite une peur, une peur un peu généralisée, sans nom et sans objet particulier, à part la perte du langage, mais qui a généré toutes sortes d'autres peurs. Il y a une autre chose qui caractérise ce personnage, c'est le côté un peu obsessionnel, et attaché à se rassurer, vous dites, voilà, savoir nommer les choses, savoir que les choses sont à leur place, dans l'ordre attendu, etc. Ça donne des scènes absolument drôles et cocasse sur l'ordre dans lequel on fait les choses, ce qu'on choisit de porter plutôt que pas des bottes, non pas des bottes, des baskets, non mais plutôt des bottes. Bon voilà, ça c'est quand même assez drôle. D'autant que pour la première fois, elle s'y trouve sans témoin. On parle de solitude, c'est-à-dire qu'évidemment, elle n'a pas d'interlocuteur, c'est-à-dire que, comme vous dites, il y a le côté argoise magique, ses déficiences de langage n'apparaîtront pas, puisqu'elle n'a personne à qui parler, a priori. Et puis, elle se fait ce côté, effectivement, vie sans témoin. Alors, sauf que, dans cette forêt profonde, il y a cette maison extraordinaire, mais cette forêt est habitée. Et alors, j'aimerais que, avant qu'on aille plus loin, que vous nous présentiez quels sont les fameux Yanouts, ce que c'est qu'un Yanouts, et qui sont ces habitants des alentours. Parce que, évidemment, la deuxième partie du roman, on est toujours enfermé dans la psyché de cette femme, face à elle-même et à ses luttes internes. Voilà. Néanmoins, des témoins et des interlocuteurs, finalement, on va en trouver dans la forêt. Alors, qui sont ces gens ? Et surtout, un personnage, Frida. Donc j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces alentours de la maison, et puis du personnage de Frida, avant de lire un deuxième extrait.
En fait, c'est vrai que dans cette région, c'est une région assez sauvage, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas trop de chemins, les chemins de randonnée ne sont pas très bien indiqués, il n'y a pas de touristes, pas trop, et c'est un petit peu comme en Ariège, je crois qu'il y a, dans ce pays, il y a soit en effet des gens très riches qui ont acheté des masses et qui sont vraiment des masses de magazines, soit des gens très marginaux et en effet, un peu comme je disais en Ariège, ouais, qui vivent là, à l'écart un peu de tout, c'est vraiment juste à la frontière espagnole. Voilà. Et il se trouve qu'en effet, j'ai imaginé ce mas isolé dans la forêt, avec comme seul voisin, un qui vit dans une cabane, dans une caravane, et cette femme qui s'appelle Frida, qui vit dans une cabane avec son copain. Que dire, elle vit à l'écart du monde complètement, elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas de téléphone portable, elle n'a pas de voiture. C'est une vie radicalement différente du personnage principal. Elle connaît cette femme sans la connaître, et puis au vu de ce qu'elle a traversé, en effet au vu de sa fragilité, et aussi peut-être cette fragilité la rend perméable à tout, et à la violence de Paris, et à cette femme, tout d'un coup, se dit, mais comment on peut vivre comme ça. Et si elle avait une rupture d'anévrisme, comment elle ferait? Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et donc elle se met en fait de questionner Frida. Elle la connaît un peu de l'été, comme ça. Et aussi, c'est la première fois qu'elle est seule dans ce masque, parce que d'habitude, il y a toutes sortes de choses à faire. Et il se trouve aussi que c'est la première fois que Frida est toute seule. Donc elles sont toutes les deux seules, l'une dans une cabane, l'autre dans un très grand masque. Et c'est l'occasion finalement de se découvrir.
Il faut dire quand même, donc, on a dit que c'est un village perdu et que la maison est encore plus perdue, qu'on est dans un paysage de moyenne haute montagne. Alors évidemment, c'est très idyllique en été, effectivement, mais vivre dans une cabane, effectivement, sans électricité, avec de l'eau aléatoire prise à la source, enfin, effectivement, en marge complète de la modernité contemporaine, en hiver, il y a des mètres de neige. C'est-à-dire que, par ailleurs, les fameux Yanouts, alors je le précise, parce que c'est dans le roman, hein, que c'est un mot catalan, je crois, qui veut dire les laineux. Et les laineux, ça, je trouve que c'est une très très bonne trouvaille. C'est-à-dire que les gens du village les appellent les laineux à cause des pulls effilochés, des dreadlocks et des barbes dans le vent. Il faut dire effectivement que ces Yanouts en question, qui vivent évidemment en caravane, dans les yourtes, dans des conditions de marginalité, c'est d'une part une marginalité par rapport aux normes de la société, c'est une marginalité choisie ou subie, c'est un peu des deux. Il y a un côté international, parce qu'on va voir dans la galerie de personnages que vous avez, Frida est allemande. Alors comment une Allemande de Bielefeld se retrouve là, au fin fond des Pyrénées, on va le découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de aussi d'utopie internationale de nulle part. Qui se trouve là. Néanmoins, vous vous donnez leurs conditions de vie objectives qui sont effectivement sans téléphone portable, sans ordinateur, etc. etc. Qu'on parle de marginalité, il faut dire aussi qu'il y a un versant un peu plus sombre de cette marginalité, puisque ce sont aussi des gens dont, si on qu'on creuse un petit peu leurs histoires, ont des vies cabossées quand même, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons sociales, soit pour... C'est un petit peu, j'allais dire, les naufragés du capitalisme contemporain, d'une certaine manière. Alors, volontaire... Moi, je trouve que justement, enfin, je ne sais pas si vous voulez dire ajouter quelque chose à ça plus avant, mais vous avez dit en préambule que vous avez rencontré cette Frida, qui s'appelle autrement évidemment, et que vous l'avez interviewée. Elle n'est pas toute seule d'ailleurs dans cet environnement-là. En parlant plus avant avec ces fameux Yanouts, qu'est-ce qui, au-delà, j'allais dire, de la différence factuelle, sociale, immédiate, du mode de vie, qu'est-ce qui vous a intéressé et fasciné, finalement, chez ces Yanouts? Ouais, chez Frida ou chez les Yanouts en général
Qu'est-ce qui m'a intéressé En tout cas, pour ce qui concerne Frida, parce que chacun est différent, on ne peut pas dire les marginaux, c'est que justement le bouquin que j'ai écrit sur les réfugiés, on ne peut pas dire les migrants. Chaque marginal est différent, on peut dire Frida est comme ci et Fri c'est autrement. Donc, bon, bref. Après, ce qui les relie, c'est en effet de se mettre à l'écart du monde, Frida particulièrement, parce qu'elle, pendant en effet 20 ans, ou pendant longtemps, elle n'a pas demandé le RSA, elle s'est débrouillée autrement. Elle s'est rendue compte, en effet, quand elle était jeune, elle est partie de chez elle à 15 ans, elle est allemande. Elle s'est rendue compte que, comme elle était d'un milieu très modeste, bah, elle n'aurait pas les moyens de faire des études et elle ne voulait pas du tout passer sa vie derrière une caisse de supermarché. Ce que je trouve assez admirable, en vérité. C'est-à-dire que cette femme n'a pas fait ça, n'a pas été, comment dire, victime du capitalisme. Elle a fait autrement et elle a réussi à faire autrement pendant 60 ans. Pendant très longtemps, elle n'a pas demandé le RSA, mais elle faisait 2 mois les cerises ou les abricots. Et puis elle vivait 7 ou 8 mois avec, mais en totale décroissance. Voilà, et elle dormait dehors. Et après, il faut être très très solide pour faire ça. Par exemple, moi, je serais complètement incapable. Mais elle,
Elle a su faire, elle a appris, elle était avec un âne. Et elle me dit, en effet, si tu bosses un bras, tu peux vivre 6 mois dans la montagne. On ne dépense pas grand-chose dans la montagne. Après, il y a toutes sortes de marginaux. Il y a des gens, en effet, plus qu'à bosser. Il y a des gens qui se défoncent. Il y a des gens qui se défoncent moins. Frida, c'est pas quelqu'un qui est... Enfin, dans son récit, c'est traversé par ça. Mais je pense pas que son but dans la vie, c'est de se mettre la tête à l'envers. Hein. C'est autre chose. C'est d'inventer autre chose et d'être libre, surtout. C'est quelqu'un de libre. Voilà, c'est ça qui me fascine. Après, c'est dur quand même, parce qu'en effet, l'hiver, parce qu'en effet, si elle a une rupture d'anévrisme, parce qu'en effet, si elle est malade, parce que, bah ouais, c'est une vie dure. Et puis, ces gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui, en effet, sont marqués, qui ont des problèmes de dents, enfin, tout ça, et c'est pas Robinson Crusoe. Enfin, je veux dire, comment dire ?
C'est pas une carte postale.
C'est pas une carte postale, non. Mais c'est des gens qui ont choisi d'être d'une certaine façon libres. Alors certains, c'est pour en effet se défoncer du matin au soir, ben, c'est leur choix, bon. Et d'autres, c'est pour planter un jardin, être autonome, de dépendre de personne, ou presque de personne. Après, c'est difficile de dépendre de personne. En effet, il faut quand même une voiture, il faut quand même un peu, bon voilà.
Je vous propose qu'on fasse justement connaissance avec cette Frida, avec un deuxième extrait de lecture. Alors, par contre, si vous pouvez juste nous situer dans le roman, à quel moment ça intervient ?
C'est au chapitre 16, et c'est page 139. Alors, c'est quand ça... Bon, elle est déjà depuis un moment dans le mas, et c'est à peu près au moment où vraiment elle commence à s'interroger sur Frida. Quoi. Elle l'a revue, mais voilà. Mais c'est quoi la vraie vie de Frida ? Comment convient-on une femme comme Frida ? Pourquoi a-t-elle choisi de vivre avec un homme comme René ? Où se sont-ils rencontrés ? Que cherche-t-il ? Que fuit-il ? Quels sont les rêves qui les hantent ? Les peurs qui les habitent ? Les repères qu'ils s'inventent ? Les lois qu'ils respectent, malgré tout ? Combien a-t-il payé pour le terrain ? Où ont-ils trouvé l'argent ? Comment envisage-t-il de vieillir ? Ont-ils seulement une retraite ? Frida a-t-elle des papiers en règle ? A-t-elle le droit, en tant que citoyenne allemande, de toucher le RSA ? Qui a composé la flûte enchantée ? Quel est le contraire de la mémoire ? Et pourquoi brutalement, ce matin, tu veux tout savoir, comme si ta vie en dépendait ? Mais parce que ? Parce que quoi ? Toujours il faut se justifier, c'est fatigant. Mais parce que j'aime l'entendre parler. Parce qu'elle m'apprendra à mater l'aurore. Parce que rêver, c'est bien, mais connaître la vérité, c'est mieux. Et c'est toujours plus surprenant que ce qu'on croit. Parce qu'il se trouve qu'elle est toute seule dans sa cabane, pile la semaine où je suis toute seule dans le mas, comme par hasard. Parce que d'habitude, il y a toujours des repas à préparer, des excursions à organiser, des gens à véhiculer, des draps à plier. D'habitude, il y a toujours des invités, ou ces week-ends en amoureux, ou ces réunions de famille. Il n'y a jamais le temps. Parce qu'il faut savoir profiter des occasions qui se présentent. Parce que finalement, ce n'est pas un hasard du tout. C'est comme si je l'avais senti de l'intérieur. Parce que je suis venue ici pour la voir. Je viens seulement de le réaliser. Parce qu'elle m'a peut-être jeté un sort à distance, qui sait. Parce que c'est comme si elle me tendait un miroir de ce que je suis devenue, mais de ces miroirs déformants qu'on trouve dans les fêtes foraines, qui grossissent ou rapetissent ce qu'ils reflètent, exagérément. Parce que regarde de quoi j'ai l'air à côté d'elle, bouffie d'angoisse, ou tout en longueur, les flancs caves, les yeux comme des fentes, la bouche par terre. Parce qu'il est plus que temps de s'oublier, de changer de lunettes, de devenir autre. Parce que survivre oblige. Parce que ras-le-bol des mêmes exercices toujours recommencés. Parce que j'ai envie de faire des oiseaux en bois, moi aussi. Parce que c'est une vie à des milliards de kilomètres de la mienne, et pourtant, j'y suis en 10 minutes à pied.
Merci pour cet extrait. Alors là, on ne rencontre pas vraiment Frida, mais on rencontre l'effet Frida sur la narratrice. Quand j'ai lu ces passages-là... Moi, c'est des passages qui m'ont vraiment, vraiment touché et ému, parce que de la même manière que la narratrice, qui, voilà, pour des raisons un peu d'urgence vitale, se retrouve là, au fond, elle fait l'expérience. Et là, le roman, pour moi, change un peu de nature et trouve une profondeur un peu inattendue. Elle fait l'expérience des autres vies possibles. Ces vies-là, tellement, alors pour le coup, radicalement autres, comme vous dites. Loin, effectivement, alors sans tomber dans les clichés du stress parisien et de la vie à la campagne idyllique, c'est pas ça, mais néanmoins, dans les circonstances qui sont les siennes, au fond,
la radicalité de la marginalité de quelqu'un comme Frida, et surtout le récit de son histoire, fait toucher du doigt quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment très sensible, moi qui m'a vraiment touché, que je trouvais très sensible, c'est-à-dire que dans notre monde contemporain, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une injonction à la liberté qui est très paradoxale. Chacun choisit sa vie grâce à l'école, grâce à la réussite professionnelle, etc. C'est l'injonction permanente qui nous est donnée, on a la chance de vivre dans un pays libre, ce qui est vrai, et donc on est censé pouvoir choisir sa vie. Dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. Le déterminisme social, les contraintes familiales, professionnelles, d'argent, enfin toutes sortes de choses qu'on s'impose à nous-mêmes font qu'on mène des vies qu'on mène, bon an, mal an, chacun finalement s'arrangeant avec ses possibles, avec plus ou moins de bonheur ou de malheur. Mais au fond, l'apprentissage de la liberté moderne, c'est l'apprentissage du renoncement principalement. Or, justement, le vertige de la narratrice, c'est précisément, tout d'un coup, pour moi, quelque chose qui nous oblige, nous, en tant que lecteurs, à se poser cette question-là. J'ai pensé, vous me direz si vous êtes d'accord, j'ai pensé, en le lisant sous une autre forme, au livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes, qui a eu le prix Femina, il y a, je crois, 2 ans, où, effectivement, c'est marrant, parce qu'il y avait une scène qui se passait justement dans les Pyrénées, aussi. Un personnage, justement, qui décide de partir en stop, comme ça, de refaire sa vie en stop, de reprendre une habitude d'étudiant, en se disant, mais pourquoi, finalement, j'ai renoncé à tout ça, etc. J'aimerais vous entendre justement sur ce paradoxe et surtout sur ce vertige en fait une autre vie possible sans pour le coup idéaliser. Je trouve qu'une des grandes valeurs de votre roman, c'est que la vie de Frida, vous n'en cachez pas, et des autres Yanouts, vous n'en cachez pas la dureté. On en a parlé. La radicalité de la marginalité a son revers sombre. Le revers agréable de la modernité, c'est le confort. Le revers sombre de la liberté, c'est l'inconfort. Ils vivent dans une vie inconfortable. Voilà, est-ce que finalement, dans le trajet de votre narratrice, son inconfort, je veux dire, pathologique lié à son accident, finalement trouve un réconfort dans l'inconfort de cette vie-là.
Est-ce que c'est un confort? Je ne sais pas si c'est un confort, parce qu'en même temps... Oui, il y a un confort d'une certaine façon, mais en même temps, disons que ce personnage, il est incapable d'être dans le présent, de profiter, de jouir, juste d'être là, parce qu'il est hanté par son accident, il est hanté... hanté par lui-même, il est obnubilé par lui-même. D'ailleurs, c'est un personnage qui a écrit ce livre, il est écrit à la deuxième personne du singulier, et en fait, c'est quelqu'un qui dialogue avec elle-même en permanence. Donc, elle est habitée par elle, envahie par elle-même, et du coup, elle part là-bas, et en effet, comme elle est seule, alors elle soliloque avec elle-même beaucoup, et puis elle retrouve Frida, qui lui raconte sa vie, et du coup, c'est vrai que. Le récit de Frida, il est à la première personne, je suis partie pour telle et telle raison. C'est comme un jeu, en fait, qui vient squatter qui vient rencontrer ce tu, qui vient squatter, parce que c'est quelqu'un qui a squatté toute sa vie, qui vient squatter ce récit, en fait. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant, en fait. Et elle, au bout d'un moment, se met un peu à parler comme elle, à se prendre pour elle. C'est un peu peut-être un point commun avec mon roman Le vent dans la bouche, quelqu'un qui se prenait pour Frida. Et là, au bout d'un moment, mon personnage, il se met à parler comme Frida. Parce qu'en fait, Frida est allemande, et donc elle a un langage assez, comment dire, poétique, original. Mais peut-être aussi qu'elle est fascinée par cette vie, parce que... Alors c'est vrai aussi que j'ai construit un personnage prof, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cadre, en fait, qui a toujours vécu dans un cadre, avec, en effet, les sonnettes, enfin les sonneries, là, les heures, les calendriers, les programmes... voilà, même s'il y a des problèmes, j'imagine qui s'échappent de ça, mais malgré tout, la vie est cadrée quand même, quoi. Très cadrée. Et or, Frida, c'est le contraire. C'est quelqu'un. Elle s'intéresse au temps qu'il fait, mais pas tellement au temps qui passe, quoi. On ne sait pas tellement quel jour on est avec elle. Par contre, s'il fait beau ou s'il fait mauvais, c'est très important. Mais. Et donc, que dire. Et voilà. Et donc, cette femme qui est un peu en rupture, hein, après ça, rupture d'anévrisme, enfin, un peu en rupture, ouais, bon, bref. Et ben, devient fasciné en fait par. J'ai perdu le fil de ma pensée.
Violaine.
Et c'est vrai que ben, vous avez parlé du livre de Sylvain, que j'ai trouvé super, hein, et qui était comme un éloge finalement du stop. Et c'est vrai que dans Une forêt dans la tête, c'est aussi un éloge des chemins de traverse, d'une certaine façon. Et Frida, elle adore faire du stop. Et mon personnage, il serait incapable de faire du stop. Parce que, d'ailleurs, il en a eu une expérience traumatisante. Et c'est tout à fait contraire à se laisser, voilà, laisser place à l'imprévu. C'est difficile, en fait, peut-être. Surtout dans notre monde, où en fait...
Est-ce que moi j'aimerais bien entendre pour voilà faire entendre pour gens qui nous écoutent la voix de Frida. Donc j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage où on a Frida.
Frida elle-même ou Frida?
Alors, ben Frida, j'en connais pas d'autres.
Non, mais Frida repris par la narratrice.
Eh ben on peut reprendre oui non Frida pas repris par la narratrice, c'est Frida quand même.
C'est Frida quand même. Et maintenant, Gogo, Gogo, c'est le chien de Frida. Et maintenant, Gogo s'étale de tout son long sur le canapé. Mais tu le pousses un peu pour te laisser totalement squatter par Frida, de pied en cap et de fil en aiguille. À moins que ce ne soit l'inverse. C'est toi qui la squattes à Gogo. Tu prends tout ce qui vient. Les mots et les chemins et les crêtes et les ravines et tous les choix possibles. Et rien n'est mieux ou pire. Et où est le bonheur? Il y a tant de subtilités à dénicher partout. La paupière jaune d'un lézard. La délicatesse d'une fleur. Une pierre miroitante au fond du ruisseau, l'ombre d'une main qui danse dans l'herbe. Et peut-être que c'est la rupture d'anévrisme qui te rend si perméable, si disponible, si avide de sensations nouvelles et si passive aussi. Tu n'es plus qu'une oreille qui écoute le monde à l'abri du monde, comme dans la salle d'attente de la vie. Et le vent est lourd, mais c'est derrière la vitre, et toi tu t'en fiches. Tu n'es pas là, tu n'es plus là. Pendant ce temps-là, tu travailles dans un supermarché à Bielefeld. Mais ça fait tellement mal aux pattes de rester toute la journée sur le cul que tu te casses. Et tu files à Berlin, dans un squat autonome. Mais c'est trop théorique pour toi, toutes ces idées, sans rapport avec la vraie vie. Alors tu te casses de nouveau. Et tu te poses sur l'autoroute, direction le Boulou, où il y a les cerises qui rougissent sur les arbres. Mais avant, tu fais un détour par Millau, où il y a des usines qui vendent des paquets d'échantillons de cuir. Et là, tu traînes avec la zone. Tu bois du Calimucho, du Coca-Cola coupé de vin blanc. Et tu deviens hyper speed. Mais t'arrives quand même à te casser avant d'être au point zéro. Et tu retournes à Prasser, où tu te lances dans le tipi avec ta copine Dani. Ça pourrait rapporter gros parce que les gens commandent, mais une fois sur deux, ils oublient de payer. Et du coup, tu passes ton temps à courir derrière le fric. 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Alors t'arrêtes le tipi. C'est pas valable, le tipi. Et tu files en Espagne avec Max. Peut-être. Tu files en Espagne avec Max, peut-être Max, tu ne sais plus, un Allemand avec une voiture. Mais rouler, c'est fatigant, il n'y a rien à mater. Alors tu le largues vite fait, et 3 mois après, ou 5 minutes plus tard, tu trouves un âne à 1000 balles, presque noir, très beau, très bon, un âne catalan. Et cette bourrique, c'est l'âne entier. Et c'est de nouveau les montagnes, jusqu'aux premières pluies de novembre. Alors tu te casses de nouveau, et de nouveau, c'est le Masno. Tu vois, on marche toujours dans les mêmes traces, dans les mêmes chemins. Parce qu'on va pas squatter n'importe où. On a peur de l'inconnu comme tout le monde, bah oui. Tout le monde a peur. On est éduqué pour. Moi, je voulais être libre. Je voulais aller loin, très loin, avec mon âne. Mais toute seule, en pleine nature, avec une bestiole du matin au soir, ça finit des fois par taper sur les cervicales. Et j'arrivais pas à dépasser la frontière de mes habitudes. En fait, je tournais en rond. Maintenant, je vais te dire, quand j'ai peur, je joue la curieuse. Faut pas se laisser dominer par la peur. Faut la transformer en curiosité.
Merci Violaine Schwartz pour cette lecture. Je rappelle donc le roman qui vient de sortir chez POL, Une forêt dans la tête, un très bon titre hein, par ailleurs. J'incite absolument tout le monde à le lire. Merci Violaine. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux dans cette période de confinement de pouvoir continuer de recevoir des auteurs à la librairie.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Le vent dans la bouche, papier et d'autres textes, tous chez POL. Je vais vous faire une petite présentation très rapide d'une forêt dans la tête. Il s'agit d'un roman où la narratrice a subi un AVC, se remet de cet accident, suit au départ à Paris une série d'examens et puis de pratiques de rééducation à l'hôpital de la Salpêtrière. Et puis, dans la deuxième partie, elle file dans les Pyrénées, pour une raison qu'on va évoquer, évidemment, dans une maison de famille, qui est un peu la maison du bonheur de l'été, mais qu'elle a choisi, dans ces circonstances-là, d'aller habiter toute seule, hors saison, d'une certaine manière. Et là, on bascule dans tout à fait autre chose, puisque, en plus de sa problématique du rapport au langage déficient qu'il faut raccommoder petit à petit, elle redécouvre cette maison sous un autre jour. Et surtout, elle fait la rencontre plus approfondie des autochtones qui vivent là autour, et qui sont les Yanouts. Alors les Yanouts, on va en parler, et notamment une certaine Frida, personnage extraordinaire, qui sera une vraie rencontre au sens plein du terme, une rencontre littéraire également, qui va ouvrir, à mon avis, le roman sur tout à fait une autre dimension poétique, philosophique et politique également. On ne dira rien de la fin de ce roman, qui je trouvais absolument exaltant, et dans l'écriture et dans la forme. Voilà, que j'invite tout le monde à lire, évidemment. Violaine Schwartz, donc voilà, un résumé très très succinct, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je sais que par ailleurs vous-même vous avez subi un accident cérébral. Alors je précise juste qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais d'une écriture à partir de cette expérience traumatique, fondamentale évidemment. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'est quel était l'élément déclencheur qui vous a fait passer de cette expérience personnelle, difficile, douloureuse, à l'écriture. C'est-à-dire pourquoi finalement vous avez éprouvé le besoin, ou qu'est-ce qui vous a, quel est le premier moteur qui vous a poussé à dire que cette histoire, il fallait la raconter et la raconter comme ça.
Le premier moteur, j'ai fait des séances de rééducation pendant 2 ans. Et assez vite, j'ai gardé les photocopies de ces exercices. Ça, c'était des emports de Danemans, parce que je me disais, il y avait quelque chose à faire à partir de là. D'ailleurs, j'en ai fait un spectacle. Avant d'écrire ce livre, j'en ai fait un spectacle avec une chorégraphe qui s'appelle Cécile Boyer. Et c'était un spectacle, en fait, où on faisait ces exercices en direct. C'est-à-dire que je changeais à chaque fois, j'écrivais des phrases un peu sur le modèle de ces emports d'Allemand, qui sont un peu des phrases. Enfin, le principe de ces exercices, c'est on dit une phrase. Par exemple, sur la table, le livre est posé de travers, et vous devez retenir de travers. Et j'en dis une deuxième, le personnage a une veste rouge, et vous devez retenir rouge. Donc ça fait de travers, rouge, etc., etc., etc. Et en général, on retient à peu près sur 10-12 phrases. Et donc, dans le spectacle que j'avais fait avec Cécile Loyer, on faisait l'exercice en direct, et c'était performatif, en fait, parce que du coup, le public le faisait dans sa tête, ou des fois il nous soufflait, parce qu'évidemment quand on est sur scène, c'est un peu plus dur que quand on est dans le public. Et voilà, et du coup, c'est une des raisons. Bah, c'est pas la seule, c'est vrai aussi que quand on vit quelque chose comme ça, c'est très bousculant intérieurement. Et ça valait le coup d'en parler. Après, il y a aussi que... un peu sur le modèle. Alors en fait, j'ai écrit ce livre après un livre qui s'appelle Papier, où j'ai recueilli la parole de demandeurs d'asile. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit à partir de, d'enregistrements, de paroles, et je m'étais donné comme contrainte de n'écrire que à partir de ces mots enregistrés, de ne pas rajouter des mots à moi. Après, c'est un travail de montage, de... Bon, voilà. Et l'année d'après, il se trouve que je connais quelqu'un qui ressemble un peu à Frida, et j'ai eu envie de l'interroger, enfin de savoir un peu qui était cette femme, et voilà, parce que je la connais un peu sans la connaître. Et il se trouve que ça lui a carrément plu. En fait, j'ai 6 heures d'enregistrement de sa vie, où elle raconte sa vie. Et du coup, j'ai fait le même travail que pour papier, donc j'ai redonné ses paroles, j'ai choisi, j'ai mis devant, derrière, parce que je trouvais plus important. Voilà, j'ai essayé d'éclairer, orchestrer ça sur la page. J'ai travaillé avec elle aussi, je lui ai montré. Voilà, et donc j'avais ce très long témoignage qui racontait la vie de Frida, qui faisait à peu près 30 pages. Et après, je me suis dit, tiens, mais ça serait intéressant de le mettre en parallèle avec un personnage radicalement différent, qui serait un peu inspiré de ce que j'ai vécu, mais en effet, qui n'est pas non plus moi, enfin, qui est... Bref. Et donc, une citadine, et elle vit à la campagne dans les Pyrénées orientales. Quelqu'un qui est intégré, qui a un métier, qui a des enfants, voilà, et elle qui est quand même en rupture de... depuis fort longtemps, en rupture de banc. Et voilà, j'ai imaginé, en effet, de mettre ces deux histoires en miroir.
Je posais la question également parce que dans le très bon article de Xavier Houssin paru dans Le Monde des Livres de la semaine dernière, il a soulevé une chose que je n'avais pas du tout notée, mais il y a effectivement un fil rouge aussi que lui a noté dans les différents romans que vous avez fait paraître précédemment. Je pense notamment effectivement à La tête en arrière, mais aussi au magnifique roman que vous aviez fait sur La chanteuse frêle, Le vent dans la bouche, où effectivement il y avait déjà l'exploration de la psyché d'une femme... une femme sous emprise, mais au sens, je pense vraiment, pour moi, voilà, différents personnages féminins que vous traitez dans ces trois romans-là, en tout cas, ça fait penser à Gina Rowlands, dans le film de Cassavetes. Donc, du part, ma première question, ça serait, dans cette exploration de cette psyché de femme déstabilisée, pour le dire comme ça, voilà, qu'est-ce que vous y cherchez, qu'est-ce que vous y trouvez? Premier point de la question, et deuxième partie de la question sur la forme, on va le voir, c'est un livre qui à la fois a des aspects dramatiques mais qui est très drôle, très léger par moments. Il y a quelque chose qui me renvoie aussi à votre travail de comédienne que vous avez fait précédemment, notamment autour d'auteurs comme Gerasim Luka ou Francis Ponge, et donc un rapport à la mise en forme de la langue qui peut parler de choses justement un peu dramatiques, mais en prenant une forme, j'allais dire presque... un travail formel, en tout cas, qui est presque à la surface des choses. Je pense à Francis Ponge, par exemple, c'est-à-dire comment, finalement, le travail de la langue elle-même, sans intentionnalité psychologique, etc., au fond, touche le cœur des gens par le cœur des choses. Alors voilà, c'est deux questions. D'une part, voilà, vos portraits de femmes sous influence. Je crois que c'est femmes sous influence. Le titre m'échappe de Cassavetes. Je crois que c'est une femme sous influence, il me semble, hein, avec Gina Rowlands, extraordinaire. D'une part, et puis d'autre part, ce rapport à la forme d'écriture, un peu formaliste, pour le dire comme ça. Je pense à Gerasim Luka et Francis Ponge que vous avez joué sur scène.
Oui, alors c'est vrai qu'en vous écoutant, c'est vrai que mes trois romans, en fait, c'est en effet trois portraits de femmes. Quoique, dans Le vent dans la bouche, c'est une femme qui se prend pour la chanteuse Fréhel, mais au milieu du livre, c'est peut-être un homme qui se prend pour une femme, qui se prend pour Fréhel. Bon, enfin, ou peut-être c'est un fantasme de plus, mais bon. Mais c'est vrai que La tête en arrière, c'est le portrait d'une cantatrice au chômage, donc quelqu'un qui est un peu hors cadre et qui en souffre. Et qui voilà. Une forêt dans la tête, c'est en effet quelqu'un qui est en disponibilité, et qui parce qu'elle est trop fragile pour travailler, elle est trop abîmée par cet accident. Et en fait, c'est vrai que tout le livre, en fait, elle est en disponibilité, mais elle n'est pas tellement en disponibilité. Enfin, j'essaye, tout le livre, c'est le chemin pour se rendre disponible, quoi, pour arriver à l'être, parce qu'elle est un peu trop encombrée par elle-même. Et c'est vrai que Le vent dans la bouche, c'est quelqu'un donc qui c'est sur la vie de Fréhel, mais c'est quelqu'un qui c'est une espèce de biographie à travers quelqu'un qui se penche au Fréhel, et c'est vrai que c'est assez marqué. Je l'ai un peu écrit en pensant à ces chansons réalistes marquées par l'alcool et par l'excès, et donc c'est vrai que c'est assez marqué par l'alcool. C'est quelqu'un qui voilà, c'est une nuit d'insomnie. Ouais, alors pourquoi je m'intéresse à ça?
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
C'est vrai que moi, moi j'ai pas fait d'études littéraires classiques. Par contre, c'est vrai que ma formation, c'est le théâtre. Et donc, j'ai été très marquée, en effet, par des auteurs comme Gerasim Luca, ou Olivier Cadio, ou Christian Prigent, ou Tarkos, des gens qui... comment dire, la patte mot du langage, qui malaxe de la langue. Et c'est vrai aussi que quand j'écris, j'entends, en fait, peut-être c'est assez oral. Je suis venue en fait à l'écriture aussi. Au début, j'écris des pièces pour la radio. Et puis après, bon, j'ai écrit un premier roman qui était donc La tête en arrière, mais dans ma tête, c'était pour la radio. Et c'est vrai que quand j'écris, c'est souvent pour des voix. Enfin, j'entends. Voilà.
Alors justement, ça tombe bien, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est vos romans, et celui-là en particulier, on se surprend, une fois qu'on l'a lu, à relire des pages à haute voix pour soi-même, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de qui travaille l'oralité. Je vous propose précisément de nous faire entendre un premier extrait.
Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Deux fois par semaine, elle t'adresse une phrase, impassible, derrière son chignon bien tiré. Elle peut dire « la bûche glacée est recouverte de chocolat » ou « l'enfant joyeux arrive avec sa trottinette ». Elle peut dire n'importe quelle phrase, du moment qu'elle est neuve pour toi, sa complexité dépendant de ta progression, de ta fatigue, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Elle peut dire « la jungle hostile pullule de boa », facile. Mais elle peut dire aussi « dans l'âtre de la cheminée, les bûches flambent joyeusement, avant de retomber en cendres, calcinées. » La règle du jeu est la suivante, tu dois d'abord répéter toute la phrase à voix haute, comme le ferait un perroquet, puis redire le dernier mot dans la foulée, pour bien l'accrocher dans ta mémoire immédiate. Arrive ensuite une nouvelle phrase, avec un nouveau dernier mot à conserver à la suite du premier, et rebelote, jusqu'au trou noir, jusqu'au blanc, jusqu'au point d'interrogation. Pour fixer cette liste aléatoire de substantifs dans ta mémoire, tu ruses. Tu élabores à toute vitesse des nœuds de sens, des embryons d'histoire. Chocolat, trottinette, facile. Égal, 4 heures le goûter, on fait la course, prince 2, c'est celui qui dit qui est, mais attends-moi, aïe, même pas mal. Le chocolat a fondu, mais c'est bon quand même. Mais, boa calciné, égal quoi? Je vous écoute. Pardon? C'était quoi déjà la première phrase d'aujourd'hui? Excusez-moi, je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas très concentré aujourd'hui. J'ai très mal dormi, c'est pour ça. Je vous la répète. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. La femme en blouse blanche dit toutes les phrases sur le même ton, c'est-à-dire sans mettre le ton. Le contraire de ce qu'on vous demandait de faire à l'école. Lisez en mettant le ton. Sa voix est comme un vide. Elle est plate jusqu'au bout du ciel. Elle n'offre aucune aide d'aucune sorte. C'est à vous. Le boulanger se lève tôt le matin pour préparer du bon pain. Pain. Oui. Ce fier pilote suisse parcourt le monde. Comme il se doit, tu dis ce fier pilote suisse parcourt le monde. Monde. Puis tu colles ce monde au mot d'avant. Pain, monde. Bien. Les crevettes roses garnissent les avocats. Les crevettes roses garnissent les avocats. Avocat. Puis pain, monde, avocat. On continue. Cette forêt giboyeuse ravit le chasseur. Donc ça fait pain, monde, avocat, chasseur. Et tu penses, entre parenthèses, en même temps que tu parles, le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur. Non, vous devez d'abord dire toute la phrase en entier, s'il vous plaît. Et quelle sévérité. Tu ris intérieurement. Oui, pardon, cette forêt ravit le chasseur. Non, ce n'est pas la bonne phrase. Pas tout à fait. Comment était cette forêt? Profonde? Non. Épaisse? Touffue? Non. Giboyeuse? Tu ne sais plus très bien ce que ça veut dire, mais ça ne se voit pas, c'est une ignorance invisible. Donc ça fait cette forêt giboyeuse ravie de chasseur-chasseur, puis pas un monde avocat-chasseur. Encore le plaisir d'y arriver. Ma tante préférée à bord des tortues. Tortue, puis pas un monde avocat-chasseur-tortue. Du chasseur à la tortue, tout simplement. Parfait. Malgré la nuit désastreuse, les yeux au fond des paupières, tu ne t'en sors pas trop mal. Quand tu as bien dormi, tu tiens sur 12 phrases. Les mots rebondissent dans le silence de ta concentration comme des ricochets dans l'eau devenue solide, couleur éteinte. Hop, hop, hop. Pain, monde, avocat, chasseur, tortue, comptoir, carotte, nuage, mésange, salopette, chandail. Non, je recommence. Pain, monde, avocat, chasseur, tortue, comptoir, carotte, nuage, store, mésange, salopette, chandail. Le pain est la chose la plus importante au monde. Non, c'est l'avocat, dit le chasseur, à la tortue. Installé sur le comptoir, pas du tout, c'est la carotte, dit le nuage, à travers le store, une mésange en salopette, chandail. Bon, on se débrouille comme on peut.
Merci. Alors, voilà, ça installe voilà, une forme de rapport au langage qui est à la fois drôle et dramatique. Parce qu'évidemment, il y a toutes ces séances dont on vient d'entendre une partie où la narratrice débat avec elle-même et ruse avec elle-même. Il y a quelque chose de plus fondamental, on n'a pas dit que cette narratrice est professeure. Et qu'évidemment, le langage, c'est son outil de travail, puisqu'elle s'adresse à un public, que sont ses élèves. Il y a quelques scènes assez cocasses, justement, où, suite à son accident, bah, elle prend un mot pour un autre, donc aboutissant toutes sortes de drôleries, de situations un peu tordues. Il y a un basculement dans ce roman qui fait que cette femme souffre évidemment de cette perte du rapport à la langue, qui est, comme je l'ai dit, son outil de travail. Et elle prend une décision tout à fait curieuse, un peu contradictoire, puisqu'elle décide, vous allez dire pourquoi et comment, d'aller dans cette fameuse maison des Pyrénées, Pyrénées orientales, maison un peu du bonheur, la maison des vacances, la maison des souvenirs heureux en famille. Or, elle y va hors saison, seule, comme je l'ai dit en introduction, c'est-à-dire sans interlocuteur. Pour quelqu'un qui veut soigner son rapport au langage, c'est un peu compliqué, puisque la solitude implique d'une manière un langage pour soi-même et à soi-même, enfermé en soi-même. Alors, on va voir qu'il ne va pas en être ainsi, puisque, grâce à plusieurs rencontres, mais une rencontre, dont on va parler dans un instant. Mais déjà, sur le bascule du roman, sur le départ dans les Pyrénées, j'aimerais vous entendre dire quelque chose sur le cheminement de ce personnage, la narratrice, sur cette décision.
C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en fait, elle décide de. Bon, elle est fatiguée d'elle-même, elle est fatiguée de tourner en rond, elle ne supporte plus la violence de la ville. Ses exercices de reconstruction, elle en vient un peu à bout, enfin, c'est pas qu'elle en vient à bout, mais ça. Bon. Et tout à coup, c'est vrai que la nuit, elle a aussi des problèmes de sommeil liés à son accident également. Et la nuit, un des exercices, parce qu'en fait, cette femme fait sans arrêt des exercices de tout. C'est-à-dire qu'elle fait des exercices de mémoire, mais elle fait aussi des exercices de reconstitution de paysage. Et donc la nuit, quand elle n'arrive pas à dormir, elle se réfugie en pensée dans cet endroit, qui est l'endroit d'avant, en fait, qui est l'endroit. Parce qu'elle n'y est pas retournée depuis qu'elle a eu cet accident. Et donc, c'est l'endroit un peu magique. C'est l'endroit ardoise magique. Quoi. Et ici, ça n'existe pas parce que personne ne sait que j'ai eu ça là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'elle y va aussi, histoire de retrouver ses baskets posées au même endroit qui l'attendent. Et elle se dit, les choses, si c'est pas nommé, ça n'a pas lieu. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Et elle ne le dira pas. Elle décide qu'elle ne dira rien à personne et peut-être que personne ne devinera qu'elle a vécu ça. Et c'est vrai que cet endroit, c'est un petit village où finalement les choses sont un peu comme éternelles, bien que non, mais enfin on a l'impression que rien ne change jamais.
Il faut préciser que ce n'est pas exactement un petit village, parce que vous décrivez l'arrivée dans cette maison, c'est une maison qui dépend d'un petit village, mais qui nécessite une piste à travers. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu conte, c'est-à-dire que l'arrivée à la maison, elle est extraordinaire, hein, pour ceux qui la liront. Arriver à cette maison, ce n'est pas rien, c'est un tout petit village qui est à l'extrême sud de la France, paumé, donc le village est déjà paumé, mais pour la maison, elle n'est pas dans le village, c'est une maison... au bout du bout d'un chemin, dans la forêt. Voilà, donc ce côté maison de conte, hein, la maison dans la forêt, joue à plein dans votre récit.
C'est pour ça qu'elle décide d'y aller. Après, c'est un énorme pari, c'est un énorme défi, en fait, parce que c'est une grande maison, elle la connaît, ça fait 25 ans qu'elle y va, mais elle n'a jamais été toute seule là-bas. Or, c'est une maison gigantesque, avec des tonnes de draps, et des tonnes de problèmes à régler sans doute, et puis la jungle est très, comme la jungle, la nature est très puissante. Donc, en effet, ils n'y sont pas allés peut-être depuis un an, et donc sans doute les prunelliers, les ronces et les orties ont dû pousser à fond. Mais elle ne pense pas trop à ça, en fait. Elle se dit, j'y vais. Et c'est aussi l'effet vaccin. Elle se dit, si j'arrive à supporter une semaine toute seule là-bas, j'aurai plus peur de rien, jamais. Mais aussi, elle fuit, elle ne peut plus supporter la violence de Paris.
Alors, il faut dire qu'il y a une deuxième caractéristique de ce personnage. Donc, il y a effectivement la caractéristique liée à l'accident, qui suscite une peur, enfin, une peur un peu généralisée, sans nom et sans objet particulier, à part la perte du langage, mais qui a généré toutes sortes d'autres peurs. Il y a une autre chose qui caractérise ce personnage, c'est le côté un peu obsessionnel et attaché à se rassurer, vous dites, voilà, savoir nommer les choses, savoir que les choses sont à leur place, dans l'ordre attendu, etc. Ça donne des scènes absolument drôles et cocasse sur l'ordre dans lequel on fait les choses, ce qu'on choisit de porter plutôt que pas des bottes, non pas des bottes, des baskets, non mais plutôt des bottes. Bon voilà, ça c'est quand même assez drôle. D'autant que pour la première fois, elle s'y trouve sans témoin. On parle de solitude, c'est-à-dire qu'évidemment, elle n'a pas d'interlocuteur, c'est-à-dire que, comme vous dites, il y a le côté argoise magique, ses déficiences de langage n'apparaîtront pas, puisqu'elle n'a personne à qui parler, a priori. Et puis, il y a ce côté, effectivement, vie sans témoin. Alors, sauf que, dans cette forêt profonde, il y a cette maison extraordinaire, mais cette forêt est habitée. Et alors, j'aimerais que, avant qu'on aille plus loin, que vous nous présentiez quels sont les fameux Yanouts, ce que c'est qu'un Yanouts, et qui sont ces habitants des alentours. Parce que, évidemment, la deuxième partie du roman, on est toujours enfermé dans la psyché de cette femme, face à elle-même et à ses luttes internes. Voilà. Néanmoins, des témoins et des interlocuteurs, finalement, on va en trouver dans la forêt. Alors, qui sont ces gens ? Et surtout, un personnage, Frida. Donc j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces alentours de la maison, et puis du personnage de Frida, avant de lire un deuxième extrait.
En fait, c'est vrai que dans cette région, c'est une région assez sauvage, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas trop de chemins, les chemins de randonnée ne sont pas très bien indiqués, il n'y a pas de touristes, pas trop, et c'est un petit peu comme en Ariège, je crois qu'il y a... Dans ce pays, il y a soit en effet des gens très riches qui ont acheté des masses et qui sont vraiment des masses de magazines, soit des gens très marginaux et en effet, un peu comme je disais en Ariège, ouais, qui vivent là, à l'écart un peu de tout, c'est vraiment juste à la frontière espagnole. Voilà. Et il se trouve qu'en effet, j'ai imaginé ce masse isolé dans la forêt, avec comme seul voisin, un qui vit dans une cabane, dans une caravane, et cette femme qui s'appelle Frida, qui vit dans une cabane avec son copain. Voilà. Que dire ? Elle vit à l'écart du monde complètement, elle n'a pas l'électricité, elle n'a pas de téléphone portable, elle n'a pas de voiture. C'est une vie radicalement différente du personnage principal. Elle connaît cette femme sans la connaître, et puis au vu de ce qu'elle a traversé, en effet au vu de sa fragilité, et aussi peut-être cette fragilité la rend perméable à tout, et à la violence de Paris, et à cette femme, tout d'un coup, se dit, mais comment on peut vivre comme ça? Et si elle avait une rupture d'anévrisme, comment elle ferait? Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et donc elle se met en tête de questionner Frida, si elle la connaît un peu de l'été, comme ça, puis elle, et aussi, c'est la première fois qu'elle est seule dans ce masque, parce que d'habitude, il y a toutes sortes de choses à faire. Et il se trouve aussi que c'est la première fois que Frida est toute seule. Donc elles sont toutes les deux seules, l'une dans une cabane, l'autre dans un très grand masque. Et c'est l'occasion, finalement, de se découvrir.
Il faut dire quand même, donc, on a dit que c'est un village perdu et que la maison est encore plus perdue, qu'on est dans un paysage de moyenne, moyenne haute montagne. Alors évidemment, c'est très idyllique en été, effectivement, mais vivre dans une cabane, effectivement, sans électricité, avec de l'eau aléatoire prise à la source, enfin, effectivement, en marge complète de la modernité contemporaine, en hiver, il y a des mètres de neige. C'est-à-dire que, par ailleurs, les fameux Yanouts, alors je le précise, parce que c'est dans le roman, hein, que c'est un mot catalan, je crois, qui veut dire les laineux. Et les laineux, ça, je trouve ça une très très bonne trouvaille. C'est-à-dire que les gens du village les appellent les laineux à cause des pulls effilochés, des dreadlocks et des barbes, voilà, et des barbes dans le vent. Il faut dire effectivement que ces Yanouts en question, qui vivent évidemment en caravane, dans les yourtes, dans des conditions de marginalité. C'est d'une part une marginalité par rapport aux normes de la société, c'est une marginalité choisie ou subie, c'est un peu des deux. Il y a un côté international, parce qu'on va voir dans la galerie de personnages que vous avez, Frida est allemande. Alors comment une Allemande de Bielefeld se retrouve là, au fin fond des Pyrénées, on va le découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de aussi d'utopie internationale de nulle part. Qui se trouve là. Néanmoins, voilà, vous donnez leurs conditions de vie objectives qui sont effectivement sans téléphone portable, sans ordinateur, etc. etc. Qu'on parle de marginalité, il faut dire aussi qu'il y a un versant un peu plus sombre de ces marginalités, puisque ce sont aussi des gens dont, si on qu'on creuse un petit peu leurs histoires, ont des vies cabossées quand même, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons sociales, soit pour... C'est un petit peu, j'allais dire, les naufragés du capitalisme contemporain, d'une certaine manière. Alors, volontaire... voilà. Moi, je trouve que justement, enfin, je ne sais pas si vous voulez dire ajouter quelque chose à ça plus avant, mais vous avez dit en préambule que vous avez rencontré cette Frida, qui s'appelle autrement évidemment, et que vous l'avez interviewée. Elle n'est pas toute seule d'ailleurs dans cet environnement-là. En parlant plus avant avec ces fameux Yanouts, qu'est-ce qui... au-delà, j'allais dire, de la différence factuelle, sociale, immédiate du mode de vie, qu'est-ce qui vous a intéressé et fasciné, finalement, chez ces Yanouts ? Ouais, chez Frida ou chez les Yanouts en général
Qu'est-ce qui m'a intéressé comment dire, en tout cas, pour ce qui concerne Frida, parce que chacun est différent, on ne peut pas dire les marginaux, c'est justement le bouquin que j'ai écrit sur les réfugiés, on ne peut pas dire les migrants, chaque marginal est différent, on peut dire Frida est comme ci, et Fri c'est autrement, donc bon, bref. Après, ce qui les relie, c'est en effet de se mettre à l'écart du monde, lui, enfin, Frida particulièrement, parce qu'elle, pendant en effet 20 ans, ou pendant longtemps, elle n'a pas demandé le RSA, elle s'est débrouillée autrement. Elle s'est rendue compte, en effet, quand elle était jeune, elle est partie de chez elle à 15 ans, elle est allemande. Elle s'est rendue compte que, comme elle était d'un milieu très modeste, bah, elle n'aurait pas les moyens de faire des études et elle ne voulait pas du tout passer sa vie derrière une caisse de supermarché. Ce que je trouve assez admirable, en vérité. C'est-à-dire que cette femme n'a pas fait ça, n'a pas été, comment dire, victime du capitalisme. Elle a fait autrement et elle a réussi à faire autrement à 60 ans. Pendant très longtemps, elle n'a pas demandé le RSA, mais elle faisait 2 mois les cerises ou les abricots. Et puis elle vivait 7-8 mois avec, mais en totale décroissance. Voilà, et elle dormait dehors. Et après, il faut être très très solide pour faire ça. Par exemple, moi, je serais complètement incapable. Mais elle a su faire, elle a appris, elle était avec un âne. Et elle dit, en effet, si tu bosses un mois, tu peux vivre 6 mois dans la montagne. On ne dépense pas grand-chose dans la montagne. Après, il y a toutes sortes de marginaux. Il y a des gens, en effet, plus cabossés. Il y a des gens qui se défoncent. Il y a des gens qui se défoncent moins. Frida, c'est pas quelqu'un qui est... Enfin, dans son récit, c'est traversé par ça. Mais je pense pas que son but dans la vie, c'est de se mettre la tête à l'envers. Hein. C'est autre chose. C'est d'inventer autre chose et d'être libre, surtout. C'est quelqu'un de libre. Voilà, c'est ça qui me fascine. Après, c'est dur quand même, parce qu'en effet, l'hiver, parce qu'en effet, si elle a une rupture d'anévrisme, parce qu'en effet, si elle est malade, parce que, bah ouais, c'est une vie dure. Et puis, ces gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui, en effet, sont marqués, qui ont des problèmes de dents, enfin, tout ça, et c'est pas Robinson Crusoe. Enfin, je veux dire,
C'est pas une carte postale.
C'est pas une carte postale, non. Mais c'est des gens qui ont choisi d'être d'une certaine façon libres. Alors, certains, c'est pour en effet se défoncer du matin au soir, ben, c'est leur choix, bon. Et d'autres, c'est pour planter un jardin, être autonome, dépendre de personne, ou presque de personne. Après, c'est difficile de dépendre de personne. En effet, il faut quand même une voiture, il faut quand même un peu. Bon, voilà.
Je vous propose qu'on fasse justement connaissance avec cette Frida avec un deuxième extrait de lecture. Alors par contre, si vous pouvez juste nous situer dans le roman, à quel moment ça intervient?
C'est au chapitre 16 et c'est page 139. Alors c'est quand ça bon, elle est déjà depuis un moment dans le mas et c'est à peu près au moment où vraiment, elle commence à s'interroger sur Frida. Quoi. Elle l'a revue, mais voilà. Mais c'est quoi la vraie vie de Frida? Comment devient-on une femme comme Frida? Pourquoi a-t-elle choisi de vivre avec un homme comme René? Où se sont-ils rencontrés? Que cherche-t-il? Que fuit-il? Quels sont les rêves qui les hantent? Les peurs qui les habitent? Les repères qu'ils s'inventent? Les lois qu'ils respectent, malgré tout? Combien a-t-il payé pour le terrain? Où ont-ils trouvé l'argent? Comment envisage-t-il de vieillir? Ont-ils seulement une retraite? Frida a-t-elle des papiers en règle? A-t-elle le droit, en tant que citoyenne allemande, de toucher le RSA? Qui a composé la flûte enchantée? Quel est le contraire de la mémoire? Et pourquoi brutalement, ce matin, tu veux tout savoir, comme si ta vie en dépendait? Mais parce que... Parce que quoi? Toujours il faut se justifier, c'est fatigant. Mais parce que j'aime l'entendre parler. Parce qu'elle m'apprendra à mater l'aurore. Parce que rêver, c'est bien, mais connaître la vérité, c'est mieux. Et c'est toujours plus surprenant que ce qu'on croit. Parce qu'il se trouve qu'elle est toute seule dans sa cabane, pile la semaine où je suis toute seule dans le mas, comme par hasard. Parce que d'habitude, il y a toujours des repas à préparer, des excursions à organiser, des gens à véhiculer, des draps à plier. D'habitude, il y a toujours des invités, ou ces week-ends en amoureux, ou ces réunions de famille. Il n'y a jamais le temps. Parce qu'il faut savoir profiter des occasions qui se présentent. Parce que finalement, ce n'est pas un hasard du tout. C'est comme si je l'avais senti de l'intérieur. Parce que je suis venue ici pour la voir. Je viens seulement de le réaliser. Parce qu'elle m'a peut-être jeté un sort à distance, qui sait. Parce que c'est comme si elle me tendait un miroir de ce que je suis devenue. Mais de ces miroirs déformants qu'on trouve dans les fêtes foraines, qui grossissent ou rapetissent ce qu'ils reflètent, exagérément. Parce que regarde de quoi j'ai l'air à côté d'elle, bouffie d'angoisse, ou tout en longueur, les flancs en cave, les yeux comme des fentes, la bouche par terre. Parce qu'il est plus que temps de s'oublier, de changer de lunettes, de devenir autre. Parce que survivre oblige. Parce que ras-le-bol des mêmes exercices toujours recommencés. Parce que j'ai envie de faire des oiseaux en bois, moi aussi. Parce que c'est une vie à des milliards de kilomètres de la mienne, et pourtant, j'y suis en 10 minutes à pied.
Merci pour cet extrait. Alors là, on ne rencontre pas vraiment Frida, mais on rencontre l'effet Frida sur la narratrice. Quand j'ai lu ces passages-là, moi, c'est des passages qui m'ont vraiment, vraiment touché et ému, parce que de la même manière que la narratrice, qui, voilà, pour des raisons un peu d'urgence vitale, se retrouve là, au fond, elle fait l'expérience, et là, le roman, pour moi, change un peu de nature et trouve une profondeur un peu inattendue. Elle fait l'expérience des autres vies possibles. Les autres vies possibles, ces vies-là, tellement, alors pour le coup, radicalement autres, comme vous dites, loin effectivement, alors sans tomber dans les clichés du stress parisien et de la vie à la campagne idyllique, c'est pas ça, mais néanmoins, dans les circonstances qui sont les siennes, au fond, la radicalité de la marginalité de quelqu'un comme Frida, et surtout le récit de son histoire, fait toucher du doigt
quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment très sensible, enfin, moi qui m'a vraiment touché, que je trouvais très sensible, c'est-à-dire que dans notre monde contemporain, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une injonction à la liberté qui est très paradoxale. Chacun choisit sa vie grâce à l'école, grâce à la réussite professionnelle, etc. C'est l'injonction permanente qui nous est donnée, on a la chance de vivre dans un pays libre, ce qui est vrai, et donc on est censé pouvoir choisir sa vie. Dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout. Le déterminisme social, les contraintes familiales, professionnelles, d'argent, enfin, toutes sortes de choses qu'on s'impose à nous-mêmes font qu'on mène les vies qu'on mène, bon an, mal an, chacun finalement s'arrangeant avec ses possibles, avec plus ou moins de bonheur ou de malheur. Mais au fond, l'apprentissage de la liberté moderne, c'est l'apprentissage du renoncement principalement. Or, justement, le vertige de la narratrice, c'est précisément, tout d'un coup, pour moi, quelque chose qui nous oblige, nous, en tant que lecteurs, à se poser cette question-là. J'ai pensé, vous me direz si vous êtes d'accord, j'ai pensé, en le lisant sous une autre forme, au livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes, qui a eu le prix Femina, il y a, je crois, il y a 2 ans, où, effectivement, c'est marrant parce qu'il y avait une scène qui se passait justement dans les Pyrénées aussi. Un personnage, justement, qui décide de partir en stop, comme ça, enfin, de refaire sa vie en stop, de reprendre une habitude d'étudiant, en se disant, mais pourquoi, finalement, j'ai renoncé à tout ça, etc. J'aimerais vous entendre justement sur ce paradoxe et surtout sur ce vertige en fait de une autre vie possible sans pour le coup idéaliser. Je trouve qu'une des grandes valeurs de votre roman, c'est que la vie de Frida, vous n'en cachez pas, et des autres Yanouts, hein, vous n'en cachez pas la dureté. On en a parlé. La radicalité de la marginalité a son revers sombre. Le revers agréable de la modernité, c'est le confort. Le revers sombre de la liberté, c'est l'inconfort. Ils vivent dans une vie inconfortable. Voilà, est-ce que finalement, dans le trajet de votre narratrice, son inconfort, je veux dire, pathologique lié à son accident, finalement trouve un réconfort dans l'inconfort de cette vie-là.
Ben, est-ce que c'est un inconfort? Je ne sais pas si c'est un inconfort, parce qu'en même temps... Oui, il y a un inconfort d'une certaine façon, mais en même temps, disons que ce personnage, il est incapable d'être dans le présent, de profiter, de jouir, juste d'être là, parce qu'il est hanté par son accident, il est hanté... hanté par lui-même, il est obnubilé par lui-même. D'ailleurs, c'est un personnage qui écrit, ce livre, il est écrit à la deuxième personne du singulier, et en fait, c'est quelqu'un qui dialogue avec elle-même en permanence. Donc, elle est habitée par elle, envahie par elle-même, et du coup, elle part là-bas, et en effet, comme elle est seule, alors elle soliloque avec elle-même beaucoup, et puis elle retrouve Frida, qui lui raconte sa vie, et du coup, c'est vrai que le récit de Frida, il est à la première personne. Je suis partie pour telle et telle raison. C'est comme un jeu, en fait, qui vient squatter le... Enfin, qui vient rencontrer ce tu, qui vient squatter, parce que c'est quelqu'un qui a squatté toute sa vie, qui vient squatter ce récit, en fait. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant, en fait. Et elle, au bout d'un moment, se met un peu à parler comme elle, à se prendre pour elle. C'est un peu peut-être un point commun avec mon roman Le vent dans la bouche, quelqu'un qui se prenait pour Frida. Et là, au bout d'un moment, mon personnage, il se met à parler comme Frida. Parce qu'en fait, Frida est allemande, et donc elle a un langage assez, comment dire, poétique, original. Mais peut-être aussi qu'elle est fascinée par cette vie, parce que... Alors c'est vrai aussi que j'ai construit un personnage prof, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cadre, en fait, qui a toujours vécu dans un cadre, avec, en effet, les sonnettes, enfin les sonneries, là, les heures, les calendriers, les programmes... voilà, même s'il y a des problèmes, j'imagine qu'ils s'échappent de ça, mais malgré tout, la vie est cadrée quand même, quoi. Très cadrée. Et or, Frida, c'est le contraire. C'est quelqu'un, s'intéresse au temps qu'il fait, mais pas tellement au temps qui passe, quoi. On ne sait pas tellement quel jour on est avec elle. Par contre, s'il fait beau ou s'il fait mauvais, c'est très important. Mais, et donc, que dire? Et voilà. Et donc, cette femme qui est un peu en rupture, après ça, rupture d'anévrisme, enfin, qui est un peu en rupture, ouais, bon, bref. Et ben devient fasciné en fait par. J'ai perdu le fil de ma pensée.
Violaine.
Et c'est vrai que vous avez parlé du livre de Sylvain, que j'ai trouvé super, et qui était comme un éloge finalement du stop. Et c'est vrai que dans Une forêt dans la tête, c'est aussi un éloge des chemins de traverse, d'une certaine façon. Et Frida, elle adore faire du stop. Et mon personnage, il serait incapable de faire du stop. Parce que, d'ailleurs, il en a eu une expérience traumatisante. Et c'est tout à fait contraire à se laisser, voilà, laisser place à l'imprévu. C'est difficile, en fait, peut-être. Surtout dans notre monde, où en fait...
Est-ce que... moi, j'aimerais bien entendre... faire entendre pour les gens qui nous écoutent la voix de Frida. Donc, j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage où on a Frida.
Frida elle-même ou... Frida.
Alors, Frida, j'en connais pas d'autres.
Frida repris par la narratrice.
Eh ben, on peut reprendre. Oui ou non, Frida pas repris par la narratrice, c'est Frida quand même.
Ouais. Et maintenant, Gogo, c'est le chien de Frida. Et maintenant, Gogo s'étale de tout son long sur le canapé. Mais tu le pousses un peu pour te laisser totalement squatter par Frida, de pied en cap et de fil en aiguille. À moins que ce ne soit l'inverse. C'est toi qui la squattes à Gogo. Tu prends tout ce qui vient. Les mots, et les chemins, et les crêtes, et les ravines, et tous les choix possibles. Et rien n'est mieux ou pire. Et où est le bonheur? Il y a tant de subtilités à dénicher partout. La paupière jaune d'un lézard, la délicatesse d'une fleur, une pierre miroitante au fond du ruisseau, l'ombre d'une main qui danse dans l'herbe. Et peut-être que c'est la rupture d'un névrisme qui te rend si perméable, si disponible, si avide de sensations nouvelles, et si passive aussi. Tu n'es plus qu'une oreille qui écoute le monde, à l'abri du monde, comme dans la salle d'attente de la vie. Et le vent est lourd, mais c'est derrière la vitre, et toi tu t'en fiches. Tu n'es pas là, tu n'es plus là. Pendant ce temps-là, tu travailles dans un supermarché à Bielefeld. Mais ça fait tellement mal aux pattes de rester toute la journée sur le cul que tu te casses. Et tu files à Berlin, dans un squat autonome. Mais c'est trop théorique pour toi, toutes ces idées, sans rapport avec la vraie vie. Alors tu te casses de nouveau, et tu te poses sur l'autoroute, direction le Boulou, où il y a les cerises qui rougissent sur les arbres. Mais avant, tu fais un détour par Millau, où il y a des usines qui vendent des paquets d'échantillons de cuir. Mais avant, tu fais un détour par Millau, où il y a des usines qui donnent des paquets d'échantillons de cuir. Et là, tu traînes avec la zone, tu bois du Calimucho, du Coca-Cola coupé de vin blanc. Et tu deviens hyper speed, mais t'arrives quand même à te casser avant d'être au point zéro. Et tu retournes à Prasser, où tu te lances dans le tipi avec ta copine Dani. Ça pourrait rapporter gros parce que les gens commandent, mais une fois sur deux, ils oublient de payer. Et du coup, tu passes ton temps à courir derrière le fric. 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Alors t'arrêtes le Tipeee. C'est pas valable, le Tipeee. Et tu files en Espagne avec Max. Peut-être, Max. Tu ne sais plus. Un Allemand avec une voiture. Mais rouler, c'est fatigant, il n'y a rien à mater. Alors tu le largues vite fait. Et 3 mois après, ou 5 minutes plus tard, tu trouves un âne à 1000 balles, presque noir, très beau, très bon, un âne catalan. Et cette bourrique, c'est l'âne entier. Et c'est de nouveau les montagnes, jusqu'aux premières pluies de novembre. Alors tu te casses de nouveau, et de nouveau, c'est le masneau. Tu vois, on marche toujours dans les mêmes traces, dans les mêmes chemins. Parce qu'on va pas squatter n'importe où. On a peur de l'inconnu, comme tout le monde, bah oui. Tout le monde a peur. On est éduqué pour. Moi, je voulais être libre. Je voulais aller loin, très loin, avec mon âne. Mais toute seule, en pleine nature, avec une bestiole du matin au soir, ça finit des fois par taper sur les cervicales. Et j'arrivais pas à dépasser la frontière de mes habitudes. En fait, je tournais en rond. Maintenant, je vais te dire, quand j'ai peur, je joue la curieuse. Faut pas se laisser dominer par la peur. Faut la transformer en curiosité.
Merci, Violaine Schwartz, pour cette lecture. Je rappelle donc le roman qui vient de sortir chez POL, Une forêt dans la tête, un très bon titre par ailleurs, et j'incite absolument tout le monde à le lire. Merci Violaine.